Chers frères et sœurs et chers amis, le titre de notre étude pour aujourd'hui sera « Les dirigeants de l'obscurité de ce monde ». Les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Il y a un puissant prince des ténèbres qui gouverne chaque ville du monde. Le déclin de la moralité, de la pornographie, de la drogue et de l'alcool, ainsi que la violence et le terrorisme, viennent de ce que Satan a établi un prince des démons pour régner sur chaque capitale du monde. Satan emploie également des hommes et toute la technique moderne, ainsi que l'argent, pour ses objectifs. Personne échappe à son influence. Ses démons surveillent et influencent les autorités, les écoles, les universités, ainsi que la vie de chaque citoyen. Satan a toujours quelques-uns de ses puissants collaborateurs qui sont infiltrés dans l'environnement de tous les hommes d'État afin d'influencer les gouvernements. Et c'est lui qui prépare des programmes, les grèves, les révoltes raciales et les haines religieuses en les incitant à se détruire mutuellement. Satan met tout en œuvre pour préparer son règne, le règne de l'Antéchrist. Son plan final, il est déjà en marche. Il fait semer les graines du délabrement moral, transformer la religion en humanisme et matérialisme. Il fait s'intéresser l'humanité toujours plus dans les plaisirs et la sensualité. Et c'est ainsi que Satan avait déjà réussi à corrompre et amener la chute de l'Empire romain et les autres civilisations. Il va encore aller plus loin qu'il n'a jamais été avec la technique qu'il a à sa disposition, telle que la télévision et la vidéo, l'Internet, sous toutes ses formes, pour ainsi influencer l'éducation, les syndicats et le domaine des affaires. Maintenant, il pourra même influencer avec tous ses maléfiques la technique de l'informatique visuelle, voire même secrète, pour surveiller et contrôler chaque humain à son insu. Ce qui est surtout son but le plus haut, c'est de rendre inefficace et impuissant l'Église de Christ dans son ensemble. Ces démons se chargent de prendre possession des professeurs de théologie pour mieux semer l'incrédulité sur l'ensemble de l'enseignement biblique. C'est une des tactiques qui actuellement lui réussit le mieux. Satan persuade les chrétiens de se compromettre avec les mœurs et le style de vie du monde moderne. Des grandes personnalités ont cédé à son influence et ont été les auteurs des plus grands scandales. Le but ultime des forces du mal est de contrôler avec plus de facilité cette humanité dépravée. Ces forces du mal ont établi une haute stratégie bien étudiée pour causer les tensions internationales d'avidité et la convoitise dans tous les domaines. Tout cela rejoint ce que la Bible dit sur les guerres et les rumeurs de guerre. Sa tactique, c'est de faire croire à l'humanité qu'il y aura un désarmement total et de croire aux divers pactes de paix. Donc, l'homme s'est révélé contre Dieu, il s'est détourné de lui et il est devenu l'esclave des puissances du mal. La conséquence, c'est que le sang des morts et les souffrances des torturés crient de la terre. Le discernement de la tactique de Satan nous sont donnés par l'enseignement de la Bible en ce qui concerne notre situation humaine. Leur dimension s'étend au-delà de la compréhension humaine en manœuvrant leur imagination jusqu'à l'extrême limite. Dieu a créé le monde, le ciel et les autres dimensions de l'existence. Il a également créé des anges et toutes les autres créatures supérieures. Selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 20, chapitre 13, verset 41, chapitre 18, verset 10, ainsi que chapitre 28, verset 2, les anges sont des messagers de Dieu, surtout pour communiquer avec des êtres humains. Ils sont d'habitude invisibles aux hommes, mais ils peuvent se faire connaître dans les rêves et dans les visions. Selon Daniel, chapitre 10, verset 13, et Jude, verset 9, il y a l'ange Michel, qui est un ange supérieur très puissant, ainsi que Gabriel, qui est apparu à la Vierge Marie, selon saint Luc, chapitre 1, verset 26. Dans Ésaïe, il nous est également parlé des séraphins dont le service est d'entourer Dieu avec la louange et la gloire, selon Apocalypse, chapitre 4, verset 8 et 9. Mais, selon l'Apocalypse, il existe également d'autres êtres célestes. Par contraste, la Sainte Bible nous parle de l'existence d'une terrible hiérarchie du mal avec Satan à la tête. Belzéboul nous indique dans saint Matthieu chapitre 10 verset 25 et vous pouvez noter chapitre 12 verset 24 ainsi que saint Luc chapitre 11 verset 15 et là il est dit que c'est le prince des diables et selon Romains chapitre 8, verset 38, et Éphésiens, chapitre 1, verset 21, il y a les principautés et les puissances des ténèbres. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, saint Paul dit catégoriquement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, et les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes des ténèbres sont ceux dont Satan a donné le pouvoir et domination sur des cités, des villes et des pays, selon les saintes Écritures, telles que saint Matthieu, chapitre 4, versets 8 et 9. Le monde entier est dans la main du malfaiteur. C'est pour cela que Satan pouvait offrir à Jésus-Christ tous ses royaumes quand il l'a tenté dans le désert. Dans ces princes des ténèbres, il y en a qui règnent sur New York, Moscou, Londres, l'Iran, la Chine, ainsi que la Corée du Nord. Nous voyons cela dans Daniel, chapitre 10, verset 13. Il est évidemment facile de démentir tout cela, mais la réalité des tragédies écrites sur chaque page de l'histoire humaine est évidente. L'humanité a toujours rêvé de l'utopie, la paix, la prospérité et l'abondance. Ces espoirs se sont imprimés sur nos cœurs. Mais tous les plans utopiques des hommes ont échoué pacte après pacte. Ils ont été cassés et jamais respectés. Et l'homme a continué de verser le sang de son frère depuis le commencement de l'histoire humaine. Donc, les progrès scientifiques et technologiques ont finalement toujours servi au mal, et ceci avec comme conséquence la ruine tragique des vies humaines accompagnée d'indiscrétion et d'inscriptibles souffrances, n'oublions pas de le dire. Et dans ce siècle où nous avons les Nations Unies, la Ligue des Nations, etc., etc., qui ne reconnaissent absolument pas l'autorité suprême de Dieu, là nous voyons que leurs efforts se montrent inefficaces et échouent quand ils essaient d'éviter des conflits. Donc de nos jours, comme autrefois, le monde reste divisé et la menace d'un holocauste nucléaire reste constamment une réalité. Du reste, il y a assez de têtes nucléaires, même stockées en secret, qui sont capables de faire sauter notre planète en quelques secondes. Des crises économiques se succèdent les unes aux autres et la tension mondiale va en empirant. L'homme, comme nous l'avons vu, ne peut pas éviter sa propre responsabilité ni le défi qu'il doit affronter en essayant à résoudre ses problèmes. Ce n'est pas de la folie ni de la superstition d'admettre que derrière ces échecs, ainsi que des désastres divers et terribles et des catastrophes, il y a des puissances mauvaises qui font tout ce qu'ils peuvent pour amener la chute de l'homme. Donc, pour comprendre l'entière situation humaine, c'est nécessaire de lire et d'interpréter les informations et reportages d'aujourd'hui avec une vision et une compréhension spirituelle afin de comprendre les tactiques des puissances mauvaises qui sont à l'œuvre aujourd'hui plus que jamais. Voyez-vous, il n'est pas possible de déceler l'existence de ces puissances mauvaises tant qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre moyen et réalité que nos cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, la saveur et l'odorat. Chaque personne ou chose qui nous sont familières, telles que notre mari, femme, bâtiment, etc., etc., doit être compris par l'un de nos cinq sens. Nous ne pouvons pas entendre, voir ou toucher n'importe quoi de la même manière. Ce serait vraiment une opinion restrictive d'affirmer qu'une existence est limitée uniquement au sens du genre humain. Même un athée, il sait que l'homme ne peut pas vivre uniquement cette limitation de la compréhension. La science et la physique font tout pour entendre et étendre le domaine des possibilités humaines. Des planètes et des galaxies complètement inconnues auparavant sont aujourd'hui amenées dans la vision de nos yeux par les nouveaux télescopes. La nouvelle génération de microscopes ultra sophistiqués révèle des formes de vie qu'auparavant était impossible à voir. Certaines bactéries et microbes étaient impossibles à déceler auparavant. De même, les réalités du domaine spirituel seront toujours au-delà de notre expérience des sens, et malgré cela, celles-ci deviennent une réalité à des milliers de croyants sans qu'ils soient dotés pour cela de facultés surnaturelles. Voyez-vous, selon Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est le sixième sens par lequel la véritable dimension de la vie devient réelle. des milliers de chrétiens vivent dans les mêmes conditions que les autres humains, mais Dieu leur permet de passer le mur du son pour voir la vision de l'au-delà. Ces chrétiens savent très bien qu'on peut expliquer scientifiquement des événements tels que le lever du soleil ou la naissance d'un bébé. Mais ils diront, grâce à Dieu merci, du cadeau d'un autre jour ou du miracle de la naissance d'un enfant. Et quand des événements hostiles arrivent, ils les voient et comprennent clairement qu'ils sont le sinistre travail du diable et de ses subordonnés. Pour comprendre tout cela, ces chrétiens pénètrent au-delà des apparences physiques pour entrer dans les dimensions spirituelles de la vie qui affecte si profondément l'histoire humaine. Chers amis, les immenses horizons spirituels desquels j'avais conscience m'ont rendu capable de voir le panorama de l'existence humaine dans une nouvelle perspective plus pénétrante. Je commençais à regarder à travers des événements de la vie jusqu'aux réalités spirituelles qui se trouvent en rapport avec certains événements. Alors, je ne voyais plus la vie en trois dimensions, mais en quatre. J'apprenais à mieux connaître l'enseignement biblique et j'ai appris beaucoup du diable et de ses subordonnés. Je comprends tout à coup, par la sainte parole de Dieu, que ce n'était pas le diable lui-même que j'exorcissais des vies des gens. Et je comprenais également que ce n'était pas des principautés qui avaient possédé ces malheureux humains et femmes. Les envahisseurs étaient, selon Saint Luc chapitre 4, verset 33, des démons, donc des petits diables, et bien que ceux-ci sont d'un ordre inférieur du royaume du mal, je savais bien par ma propre expérience, ainsi que par la Sainte Bible, qu'ils étaient capables d'une dévastation énorme, aussi bien dans les esprits que dans les corps des humains. Ces incidents qui sont attestés dans le Nouveau Testament montre qu'il y a beaucoup de diversité des esprits méchants et qu'ils peuvent affecter nos vies de nombreuses manières. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans Saint Luc, chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 26, que les démons entrent dans l'homme par l'âme et l'esprit, surtout s'il y a des conditions spirituelles négatives, donc un état de péché. Mes études de la Sainte Bible me montrent également que des gens qui s'exposent à l'influence satanique au moyen des mauvaises pratiques, intentionnelles ou pas, peuvent, croyez-moi, être contrôlés par les démons. D'abord, ils affectent la vie spirituelle ou ils peuvent entraver la vie spirituelle d'une personne et ceci à tel point qu'elle ne peut plus ni prier ni lire la sainte parole de Dieu. Des démons peuvent procurer des capacités d'imitation religieuse parapsychologique telles que la clairvoyance, la lévitation, prédire l'avenir, des pouvoirs de médium, imiter le parler en langue, des visions et de nombreuses autres choses semblables. Ah oui, il y en est parlé du reste dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 14, Saint Matthieu chapitre 24 verset 24 et Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. La personne tourmentée elle est rapidement affectée sur le plan moral, étant dominée par des passions incontrôlables, la convoitise et la luxure, mais elle peut également devenir très dépressive et aller jusqu'au suicide. La victime souffre de terribles servitudes spirituelles, étant incapable de réagir selon Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 24. La fin de cette condition spirituelle, c'est la possession. On peut, selon la Sainte Bible, décrire les personnes qui sont affectées par des démons, dire qu'ils ont un démon et qu'ils sont ainsi sous l'emprise d'un esprit impur. Le démon, une fois installé dans une personne, il peut contrôler complètement sa victime. Dans Saint Marc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 20, nous avons un exemple terrible de l'homme possédé de Gadara. Bien qu'il ne portait plus de vêtements depuis longtemps et qu'il vivait la plupart de son temps dans des cimetières, des grottes, et quand il a vu Jésus-Christ, il a accouru, il s'est prosterné devant lui et il s'est écrié d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Jésus, Fils du Dieu Très-Haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Les démons ont souvent causé cet homme d'être si violent qu'on avait dû l'attacher avec des chaînes. Oui, tout le monde avait peur de lui. Et quand Jésus-Christ lui a demandé son nom, il a reçu la réponse étonnante « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Les symptômes étaient précis. Il réagit avec violence à la présence de Jésus-Christ. Il avait la connaissance spirituelle de la nature de Jésus-Christ. Évidemment, sa voix était sous le contrôle des démons et c'est eux qui ont plaidé avec Jésus de ne pas les expulser. Il était fréquent que c'est les démons qui avaient le contrôle sur lui et ils lui procuraient une force phénoménale et contrôlaient et dirigeaient tout son être. Ainsi, il est facile de comprendre que ces démons se sentent plus en sûreté là où séjournent les morts. Dans Saint Marc, chapitre 1, versets 23 à 28, nous voyons que Jésus se trouvait dans la synagogue quand il rencontra un homme qui avait un esprit impur. L'homme s'écria : « Qui a-t-il ? Qui a-t-il entre nous ? Et toi, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Verset 24. Et Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. La possession démoniaque peut amener de graves troubles spirituels et physiques. Or, ces causes ont besoin de remèdes spirituels. Les médecins peuvent souvent rien faire à des personnes qui ont des graves problèmes du domaine psychosomatique. Tout le monde sait que la condition mentale d'un individu peut avoir des effets totalement imprévisibles sur le corps. Il y a d'innombrables symptômes physiques qui sont d'origine psychosomatique. La vie spirituelle est fondamentale à la santé émotionnelle et en même temps physique, et ayant de ce fait des répercussions sur tout notre être. Et quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, beaucoup de choses changent. Par son influence sur nos vies, nous serons plus forts, pas seulement spirituellement, mais également dans notre esprit et dans notre corps. Le Saint-Esprit commençait à régler ma vie et il pénétra mon être tout entier de sa puissance guérissante. Au contraire, des esprits du mal peuvent causer des symptômes de maladies physiques et arrêter l'exacte fonction des organes de notre corps. Par exemple, tout le monde comprend les difficultés qu'on supporte quand on est sourd de naissance. Une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas communiquer facilement parce que on n'a jamais entendu des sons pour les répéter. Et selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 32, il y avait des personnes sourdes et muettes à l'époque de Jésus-Christ, et il en a guéri quelques-uns, les traitant comme des possédés. Une fois, la foule était étonnée parce qu'il a parlé à un enfant sourd, disant, selon saint Marc, chapitre 9, versets 20 à 29, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » À ce moment-là, l'enfant était agité avec une grande violence et il est devenu comme mort. Mais Jésus-Christ l'a pris par la main et l'a fait se lever. Voyez-vous, Jésus-Christ parlait à l'esprit impur qu'il avait entendu et il a obéi à son ordre. Et l'enfant a été entièrement guéri. Mais dans saint Marc, chapitre 7, versets 32 à 35, nous voyons que Jésus-Christ n'a pas traité tous les cas de surdité de la même façon. Jésus a mis les doigts dans les oreilles d'un homme et il a dit « Epaphata », qui veut dire « ouvre-toi ». Et immédiatement cet homme a entendu. À cause de la sourdité de cet homme, il avait un défaut d'élocution qui fut guéri en même temps. Jésus-Christ donc a fait une distinction entre la guérison qu'il a accomplie quand il savait que la condition était le résultat d'une cause physique et la délivrance des esprits mauvais quand l'affliction venait d'une origine démoniaque. Alors il savait toujours la différence selon Matthieu chapitre 12 verset 22 à 29. Là, nous voyons que Jésus-Christ a quitté un homme qui était aveugle et muet comme étant un cas de la possession. La vision et la parole de cet homme étaient tout à fait restaurées et les observations de la foule indiquaient qu'un puissant ministère de l'exorcisme avait lieu. Et ils dirent, cet homme, Jésus, chasse les démons par Belzéboul, prince des démons. Une étude compréhensive révèle que Jésus-Christ n'a pas traité chaque aveugle comme s'il était possédé des esprits mauvais. Selon saint Marc, chapitre 10, verset 46 et jusqu'au verset 52, l'aveugle Bartimée, il a reçu sa vue parce qu'il avait la foi de croire, la foi en Dieu, de croire que Jésus avait la puissance de le guérir. Dans Jean, chapitre 9, verset 1 à 12, nous voyons que Jésus-Christ avait guéri un homme aveugle de naissance. Cet homme a reçu la guérison quand Jésus-Christ lui appliqua de la boue sur ses yeux et il s'est lavé au réservoir de Siloé. Cet homme était donc guéri, mais pas exorcisé. Pas seulement les sourds et les aveugles, mais également des infirmités physiques étaient exorcisées de temps en temps, mais dans d'autres occasions, ils étaient simplement guéris. Selon Marc chapitre 16, verset 9, et Saint Luc chapitre 8, verset 2, on dit que Marie de Magdala aurait été délivrée des esprits impurs et des infirmités. Il paraît que sept démons étaient chassés d'elle, et cela indique que la possession démoniaque et les infirmités étaient liées étroitement. Selon Saint Luc, chapitre 13, versets 11 à 17, cette union entre les démons et les infirmités est claire dans le cas de la femme qui était guérie par Jésus-Christ dans la synagogue, et ceci le jour du sabbat. Évidemment, cette femme avait une difformité à l'épine dorsale et ne pouvait pas se redresser. Et quand Jésus-Christ l'a vue, il lui a imposé les mains et lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et tout de suite, elle s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Il est tout de même significatif que Jésus-Christ a posé la question aux pharisiens. Il a demandé, voyons, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette infirmité le jour du sabbat? Jésus-Christ a discerné l'origine spirituelle de la difformité en révélant la source qui était un lien satanique. Parfois, Jésus-Christ opérait la guérison plutôt que l'exorcisme à ceux qui étaient boiteux ou infirmes. Apparemment, des symptômes identiques peuvent avoir des causes très différentes et l'efficacité du ministère de Jésus-Christ nous montre qu'il connaissait toujours par le discernement la manière dont il devait procéder. Un pasteur en Angleterre m'a raconté qu'il avait dû chasser à une femme plusieurs esprits car elle avait une sévère affliction d'épine dorsale qui lui faisait très mal et à cause de cela, elle traînait la jambe. Dieu merci, elle fut libérée et délivrée de la puissance du diable. Ce n'est que un cas parmi plusieurs où il y avait la totale guérison des maladies physiques, après que les esprits d'infirmité étaient expulsés. Cependant, dans la plupart des cas, c'est le ministère de la guérison qui a délivré des centaines de gens de leur infirmité. L'épilepsie, dans beaucoup de ses aspects, est une maladie mystérieuse, avec des causes physiques et psychologiques. Et souvent, des patients ont encore d'autres afflictions et d'incapacités en plus. Selon Luc, chapitre 9, versets 37 à 43, il est certain que Jésus-Christ a guéri un garçon qui souffrait de cette maladie en expulsant les esprits du mal. L'incident commençait quand un homme sortit de la foule en criant « Maître, je t'en prie, viens voir mon fils, car c'est mon fils unique. » Et voilà, un esprit le saisit et soudainement il crie et l'esprit le convulse jusqu'à ce qu'il écume et il le brise et le laisse dans cet état. Sitôt que Jésus-Christ s'était approché du garçon, le démon jeta le jeune homme par terre et le traita d'une manière terrible. ou si Jésus-Christ a immédiatement réprimandé l'esprit impur en le chassant et le garçon a été totalement guéri. Chers amis, si jamais vous n'êtes pas certain de l'origine d'une maladie, demandez au patient s'il sait, d'après le rapport médical, si la maladie a une cause physique. Si la réponse est affirmative, vous pouvez implorer, intercéder pour la partie affectée en priant que le Saint-Esprit expulsera toute la maladie et guérira les nerfs, les tissus et les cellules ainsi que les muscles. Et quand une affliction est d'origine spirituelle, alors vous pouvez employer le puissant nom de Jésus-Christ pour expulser l'esprit mauvais. J'ai vu des résultats formidables avec le soulagement de la douleur et la détresse par cet aspect du ministère. Le Nouveau Testament attribue aussi la cause d'une maladie mentale à l'activité des esprits mauvais. Pour l'homme de Gadara, comme je l'ai mentionné auparavant, c'était un cas de la possession multiple. Et certainement, ceci avait un effet terrible sur l'esprit et aujourd'hui, sans doute, on l'aurait diagnostiqué d'être d'origine psychique ou de la schizophrénie. C'est la même chose pour l'homme qui criait dans la synagogue, selon Saint Marc chapitre 1, versets 23 à 28, où il a dit que « Vas-tu faire avec nous, toi, Jésus de Nazareth ?» Et dans des cas extrêmes, des gens qui se conduiraient comme ça aujourd'hui, ils seraient considérés comme étant des fous et on les enfermerait. Le psychiatre chercherait à les soigner comme des cas du domaine de la médecine. Ils utiliseraient par exemple des médicaments très puissants, les électrochocs et j'en passe. Et dans beaucoup de cas de mon ministère, j'ai vu que la cause du dérangement émotionnel est vraiment du diable. L'exorcisme a sauvé ces gens de la détresse profonde et a contribué beaucoup à leur délivrance totale. Mais ce serait une faute sérieuse de traiter tous les cas de la psychose et de la névrose comme étant de la possession démoniaque. Jésus-Christ enseignait qu'on pouvait être meurtri et qu'on pouvait avoir le cœur brisé et encore être prisonnier de Satan. Il s'adressait donc à la maladie des personnes ou à leur hémorragie, comme par exemple à la femme qui avait la perte de sang, ou encore à la douleur et à la détresse qui se trouvaient dans une personne. Et actuellement, Jésus-Christ voulait montrer qu'on avait besoin de la guérison intérieure de la personnalité, ainsi que de notre esprit subconscient. Et des psychiatres ont montré que des conditions de névrose, etc., telles que la peur irrationnelle, la dépression, les névroses diverses, ainsi que la schizophrénie, ont fréquemment leur origine dans un problème émotionnel, et c'est le cas également pour les dépressions nerveuses et les troubles de la personnalité. On a besoin d'un ministère sensitif pour la guérison interne. Bien sûr, des exorcismes traumatiques, surtout quand ils sont très longs à soigner et doivent se répéter souvent, pourraient faire un sérieux mal et provoquer encore plus de désordre aux gens qui souffrent de maladies profondes. Aujourd'hui, on est plus que jamais influencé par les puissances du démon. On essaye de vivre la vie normale malgré que de nombreuses personnes ont des dérangements spirituels parfois graves, soit d'origine physique ou mentale, qui sont produits par ces envahisseurs, c'est-à-dire par les démons. Mon étude de la Sainte Bible m'a permis de comprendre les principes fondamentaux de la possession des démons et ma connaissance de la psychologie m'a aidé à comprendre comment les esprits mauvais pouvaient affecter toute une vie. Cette connaissance est absolument nécessaire pour le ministère de l'exorcisme. Après avoir compris ces vérités, j'ai décidé de servir avec une nouvelle conviction, une nouvelle assurance et la confiance dans le Seigneur pour délivrer des gens des mauvais esprits avec des résultats définis et durables, comme il est démontré dans Saint Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Pour terminer, je dirais simplement, le ministère du Saint-Esprit est toujours dans le contexte du corps de Christ qui est son Église. Son but ultime n'est pas seulement la guérison du corps, mais également le salut de l'âme, la libération du péché par la foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Son message sera tout à fait biblique avec les thèmes tels que le ciel, le jugement, l'enfer, le pardon et la victoire de Christ sur le mal, c'est-à-dire sur Satan. Nous ne devons avoir aucun autre guide que Jésus-Christ qui est la seule voie menant au salut de l'âme, du corps et de l'esprit. À la fin, la véritable épreuve d'un vrai ministère chrétien est montrée par cette phrase « Est-ce que cette personne prêche l'évangile du salut ? Est-ce qu'il conduit ou elle conduit les gens au royaume de Dieu ?» Nous savons tous que la puissance de Satan peut satisfaire les curieux et peuvent donner des bienfaits temporaires. Mais le diable n'essayera jamais de détruire son propre travail et son royaume en gagnant des âmes, par exemple, pour le royaume de Dieu. Évidemment, ça, jamais. Ou si, sans doute, cette connaissance, je n'aurai jamais... Sans cette connaissance, je n'aurais jamais compris, jamais j'aurais compris la plus grande partie de ce qui concerne le domaine de la possession des démons si je n'avais pas eu la patience d'étudier la Sainte Parole, et cela attentivement, avec discipline et dans la prière, et en recherchant la présence du Seigneur et de l'Esprit Saint. Je serais un aveugle aujourd'hui qui conduirait d'autres aveugles. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait comprendre par sa divine grâce et sa miséricorde et son désir, c'est que nous devons continuer ici-bas son œuvre qu'il avait entreprise pendant qu'il était parmi nous. Et ceci jusqu'à son retour glorieux, où il reviendra dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Vous savez, avant de commencer cette étude ce matin, eh bien, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ qu'il permette que le Saint-Esprit s'empare de ma bouche et de mon être tout entier, car à 85 ans, faire ce que je fais actuellement, déjà passer 1000 messages sur CD, ce n'est pas tout à fait facile. Et vous savez, c'est pas comme une cassette. Quand j'avais fondé la cassette, donc la mission sur cassette, eh bien c'était plus facile parce que je pouvais arrêter, par exemple, dans un mot ou une phrase pour la reprendre si j'avais commis une erreur. Tandis qu'avec le CD, je dois y aller d'un seul coup, du début jusqu'à la fin, sans rater quoi que ce soit, et ça, c'est impossible à 85 ans, donc sans que le Saint-Esprit intervienne. Impossible. Alors merci de comprendre que vous, qui êtes la moitié plus jeune que moi, si vous êtes sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire sauvé pour simplement s'asseoir dans un fauteuil ou être ballotté entre deux palmiers au bord de la mer? Absolument pas. Sauvé pour servir. Avez-vous bien compris cela? Vous êtes sauvé pour servir. Et c'est à vous de le faire maintenant. Nous allons prier ensemble maintenant, chers amis. Et donc, simplement, je voudrais vous demander et de penser et de prier, soit dans votre cœur ou à haute voix, et nous confessons qu'à partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous tenons fermement à obéir et à observer les commandements de Dieu selon ce que Il nous enseigne dans sa sainte parole et nous lui demandons pardon de ce que souvent nous avons pris cela beaucoup trop à la légère. Nous désirons donc, Seigneur, te servir et te demandons de nous utiliser afin que nous puissions apporter notre aide à tous ceux qui vivent autour de nous et aux multitudes qui ne te connaissent pas encore. Merci de ce que nous sommes pas seulement une partie de la masse humaine, mais que nous sommes considérés chacun par toi comme unique et que tu nous appelles par notre nom, selon Ésaïe 43, verset 1. Tel que le Père, tu nous dis à chacun également que nous sommes tes fils et tes filles en qui tu mets toute ton affection. Oui, nous acceptons ton grand amour. Nous inspirons profondément ton Esprit Saint afin de ressentir tous les bienfaits de ton amour. Et maintenant, pendant que chaque personne ici présente qui souffre soit d'une maladie physique, psychosomatique ou morale, nous voulons confesser ta sainte parole de tout ce que le Saint-Esprit nous a fait grâce de comprendre dans nos cœurs pendant cette réunion, pendant cette étude. Aussi, nous confessons qu'à cet instant où tu touches de ta main percée, ô Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui placent toute leur confiance en toi, nous donnons l'ordre dans le saint nom de Jésus-Christ que toute maladie, toute infirmité, toute angoisse, dépression ou possession soit brisée à cet instant même et nous chassons dans le saint nom de Jésus-Christ tout esprit de maladie et tout autre lien qui tienne captif ceux qui désirent d'être libérés à cet instant, et nous confessons cela de tout notre cœur dans le saint nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen.